France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Y aurait-il par hasard des loisirs de riches et des loisirs de pauvres ? Disons plutôt que certains hobbies comme le golf, le bridge, l'équitation et dans une certaine mesure le tennis seraient-ils réservés à une bourgeoisie fortunée ayant accès à ces pratiques, qui en aurait les moyens ou qui se croirait autorisée ? Des loisirs plutôt individualistes par opposition au foot universel et transclasse, aux sports d'équipe comme le basket qui ne coûte qu'un ballon et un terrain municipal. Les chiffres sont assez éloquents. L'équitation, par exemple, c'est 86% de femmes et 1,4% de licenciés d'équitation issus de quartiers prioritaires de la politique de la ville. Les échecs aussi, c'est 80% d'hommes et 4,8% de licenciés issus de quartiers prioritaires. Pour les échecs d'ailleurs, si on en croit les études, ce n'est pas tant le jeu en tant que tel qui est plutôt réservé aux classes favorisées, mais le milieu des échecs, notamment dans les clubs et surtout les compétitions qui restent très masculins, blancs et bourgeois. Mais tout ça, c'est sans compter TikTok et la puissance subversive des réseaux sociaux qui nous permet aujourd'hui d'accéder à des exceptions notables, des jeunes qui renversent la table et qui mettent tout ça par terre. Aujourd'hui donc, on fait connaissance avec deux d'entre eux, Amir et Fama, qui confirment la règle, mais ouvrent une brèche et donnent à penser. Deux récits proposés par Mariam Cissé.
Moi, c'est Amir, 20 ans. Ça fait maintenant 5 ans que je suis propriétaire d'une jument qui s'appelle Tchena. À côté de ça, là, je sors d'une formation agent de sécurité pour pouvoir plus tard faire agent cynophile avec ma chienne. Je suis originaire de Grenoble. Mes parents, du coup, comme métier, ils travaillent en usine, donc voilà. Ma famille et moi, on a grandi style un peu quartier, mais pas grosse cité, quoi. Vraiment HLM. Un peu tous ensemble, tous solidaires, toute origine, toute culture, tout mélangé quoi en fait. Mes premiers souvenirs avec des chevaux, du coup, c'est quand j'étais très petit, j'avais quoi, 3 ans. J'étais parti dans les gorges du Verdon, si je me trompe pas, avec ma famille. Et à côté du mobilhome où on dormait le soir, il y avait un cheval. Je le ramenais tous les matins, bout de pain dur. Je m'en souviens comme si c'était hier. En grandissant, du coup, à chaque opportunité où je pouvais me rendre avec des chevaux, je m'y rendais, par exemple, au niveau des centres commerciaux, pendant les fêtes de fin d'année, souvent il y avait des calèches, des poneys, des chevaux. Je profitais de cette occasion-là pour m'y rendre, pour essayer de monter, pour m'y intéresser, etc. Et en fait, la première fois que je suis monté à cheval, je devais avoir 13 ans. En fait, un jour, ma cousine m'a proposé d'aller dans un centre équestre, vu qu'elle aussi, elle voulait monter à cheval pour la première fois. C'était quand même un peu impressionnant de se dire, moi, avec mon style vestimentaire, parce que, on va pas se mentir, ça reste un endroit quand même pour les personnes aisées. Mais franchement, c'était une bonne expérience. Le cheval, il était grave gentil, ça s'est grave bien passé. Suite à ça, j'avais grave envie de retourner dans un centre équestre et revivre cette expérience, même avec d'autres chevaux, etc. Ça, c'est sûr. En ce moment-là, j'avais énormément d'autres sports, d'autres passe-temps. Moi, j'ai toujours aimé la motocross, le ski, l'escalade, le handball, la boxe, mais pas du tout l'équitation. Et c'est ça un peu qui a fait un peu rire tout le monde. Et c'est pas au niveau de mes parents, franchement, que ça a plus étonné que ça, vu qu'ils savent très bien, en fait, depuis petit, quand je veux faire quelque chose, je le fais. Et quand je veux aller jusqu'à un projet, je fais tout pour l'avoir. Ça a plus étonné les gens de mon entourage par rapport à mon style de base, à mes passions, à mes loisirs, à mes sports. Et c'est pour ça qu'on m'a pas trop pris au sérieux au début. Mais c'était grave compliqué de continuer de monter à cheval régulièrement, vu que j'étais jeune, j'avais pas forcément les moyens, mes parents non plus. Du coup, je me dis que j'allais mettre de l'argent de côté et j'allais aller découvrir plusieurs centres équestres autour de chez moi. Et en fait, suite à mon apprentissage, du coup, j'ai commencé à travailler quand même assez jeune. En commençant à gagner un peu de sous, mes potes, par exemple, ils s'achetaient des vêtements pendant que moi, je mettais de l'argent de côté pour pouvoir aller monter à cheval. Donc, pendant une petite année, je monte à cheval dans les centres équestres autour de chez moi. Ça s'est toujours bien passé, je me suis toujours fait bien accueillir. Bon, après, il y a toujours des regards un peu extérieurs qui sont un peu plus percutants que d'autres. Mais quand les gens ils commencent à discuter avec toi, quand ils voient vraiment que tu es réellement intéressé, que c'est pas pour faire n'importe quoi, et que bah, tu prends soin de ton animal, qu'on t'attribue, et que bah, tu es respectueux, etc. Après, tu es très bien vu, hein, attention. C'est juste, au début, bah, ça fait toujours un peu de pression. Tu n'es pas trop à ta place. Les gens, ils te voient arriver en survette. Ils se disent plus, bah, mince, il s'est trompé de stade de foot. Mais franchement, il y avait d'autres garçons qui montaient à cheval. Et c'est aussi pour ça que bah, je me suis dit, en fait... Clairement, ça veut rien dire. Le déclic, il est vite venu dans ma tête de vouloir m'acheter mon cheval, continuer de m'attacher à des chevaux qui ne sont pas les miens, créer des liens, parce que bah, on va t'attribuer un cheval pendant 3 cours d'affilée, et après ces 3 cours, bah, on va t'attribuer un autre cheval dont tu n'as pas du tout évolué avec, et en fait, du coup, tu as l'impression de jamais évoluer. T'as créé ton lien, t'as passé un beau moment avec ton cheval attribué pour 1 heure, et après, en fait, il n'y a plus rien du tout. Donc, je prends la décision, moi, de mon côté, de faire mes propres recherches pour me trouver mon futur cheval. Je commence à faire mes recherches tranquillement, un peu bah, Facebook, Le Bon Coin, un peu de partout. Mes parents, je leur en parle sans trop leur en parler pour pas trop qu'ils me cassent dans mon délire. Eux, de base, ils sont pas du tout dans le milieu de l'équitation. Et en ce moment-là, j'ai quoi, 14 ans ? 14 ans et demi. Donc bon, dire je vais gérer un cheval, je vais m'acheter un cheval et inquiétez-vous pas, c'est tout moi qui va m'en occuper, c'est tout moi qui va prendre en charge, c'est quand même compliqué. Un cheval, ça peut être comme une voiture. Il y a tous les prix, tout dépend de la race, tout dépend de ce qu'elle a fait dans sa vie, tout dépend de pourquoi t'achètes le cheval. Moi, en l'occurrence, c'était vraiment pour un cheval de compagnie, pour de la balade et un peu de sport loisir. Vraiment, il y a tous les prix. Quand j'étais un peu plus sûr de moi, bah, je commençais du coup à les toquer à droite à gauche autour de chez moi. À chaque fois que je voyais des chevaux, je sonnais. J'allais dire, bah voilà, bonjour, je suis en train de rechercher du coup mon futur cheval. Vraiment en mode one life, très serein, malgré mon âge et ma crédibilité du coup. Vu que bon, j'arrive en voiture sans permis, en survette. La plupart des gens qui tiennent des pensions, des pâtures, etc., ça reste quand même un peu des agriculteurs. Il faut quand même rester bah, présentable et sérieux. Pour qu'eux aussi nous prennent au sérieux. Et en fait, mi-juin 2020, je suis tombé sur une annonce. Je vois une belle jument, du coup, elle avait 12 ans à ce moment-là. Directement, elle m'a plu, sans même la voir, sans même la connaître. C'était comme si c'était déjà écrit sur l'annonce qu'en fait, elle était destinée pour moi. Mais quand j'ai vu l'annonce et la jument que c'était, bah pour moi, en fait, c'était impossible que j'arrive à la voir. Genre, elle était beaucoup trop de prestance, elle dégageait beaucoup trop de choses pour que ça soit moi le propriétaire. J'appelle directement du coup ma tati, la mère de ma cousine qui monte à cheval. Je l'appelle, salut tati et tout, j'ai trouvé une bête d'annonce, vraiment une jument, j'en suis sûr qu'elle est bien et tout, je veux vraiment aller la voir. Donc le rendez-vous il est pris, je préviens quand même mes parents et donc on est allé voir Tiena. Vraiment, c'est comme un film. On est arrivé devant bah, l'écurie, du coup. On la voyait dépasser du box. Elle était grave belle, de la prestance comme sur les images. Le soleil qui tape sur son visage. En fait, elle était tellement belle, tellement brillante. Et elle avait tellement déjà quelque chose que... Avant même d'être dessus sur elle, en train de marcher, ou même... En fait, rien que d'être à côté d'elle, etc., je ressentais déjà que c'était elle. Donc, on a commencé, voilà, là... à la brosser, à faire le petit pansage, à la sceller. Et puis, on est parti en balade. Ce jour-là, c'était vraiment le coup de foudre. Je suis rentré directement. Bah, j'ai dit à mes parents, ça va être Tiena, ma future jument. Donc là, eux directement, ah ouais et tout, bah, montre-moi des vidéos, explique-nous, raconte-nous. Donc franchement, grave bien passé. Mais l'ancienne propriétaire de Tiena, elle m'avait quand même averti que de base, elle voulait pas du tout vendre bah, sa jument à un garçon. Elle voulait vraiment être sûre que voilà, Tiena allait continuer d'être chouchoutée, brossée avec tendresse. Mais franchement, bah, je me suis grave bien entendu avec la propriétaire. Je pense qu'elle voyait vraiment en fait, dans mon comportement, mon attitude et ma façon de parler que j'étais vraiment impliqué, je savais dans quoi je m'engageais. Je voulais vraiment que ça soit moi et pas quelqu'un d'autre, vu que je savais que j'allais apporter la tendresse qu'il fallait, l'amour qu'il fallait et tout ce qui s'ensuit. Donc ça allait très bien se passer pour tout le monde et que ma jument allait être heureuse, épanouie et bien dans son nouvel environnement. Suite à ça, du coup, la jument, c'est bon. L'ancienne propriétaire, réponse positive. On fixe la date pour pouvoir avoir ma jument. Un jour ou deux jours avant, je suis vraiment allé acheter une selle pour ma jument, le filet, la caisse de pansage. En fait, tout pour que quand elle arrive, elle ait du matériel neuf. Donc le 15 août 2020, il y a mon père, ma mère, mon frère, moi, ma grand-mère, ma marraine. En fait, c'est vraiment la nouvelle de la famille. C'est l'arrivée, comme l'arrivée d'un nouveau-né. C'est bête, mais c'est vraiment ça. On l'attend tous avec impatience, on la voit tous avec les larmes aux yeux, avec... Enfin, en fait, c'est vraiment... Voilà. Mes parents, dès le départ, très impliqués, à me soutenir, à m'aider. Je crois que mon père, il n'a jamais monté sur ma jument. Par contre, ma mère, si, la première semaine directement, alors qu'elle ne monte pas à cheval. Hein. Je la tenais avec une longe, mais on a fait une balade. Vraiment, c'était trop bien. Mon organisation, du coup, à ce moment-là, je travaillais sur une aire d'autoroute, donc je suis dans la vente, côté Micaline, essence, FDJ, tout ça. Je fais 6h-14h environ. On a après-midi libre pour pouvoir aller à ma jument. J'avais trouvé la pension de ma jument juste à côté de chez moi. Franchement, avec le propriétaire de la pension, très cool, avec beaucoup de conseils à donner. Ils m'ont d'ailleurs très bien aidé la première année parce que je suis passé quand même par plusieurs étapes compliquées aussi, vu que faut du travail, faut de la patience, faut du temps. Au début, c'était quand même une jument. Il n'y avait que moi qui l'a montée, quoi. Elle n'est pas dans son lieu, elle n'a pas ses repères, il faut se mettre aussi à sa place. Petit à petit, tu apprends en fait à que le cheval accepte quelqu'un sur son dos, les allures, marcher, trotter, galoper, plein de petites choses comme ça qui paraissent évidentes. Mais en fait, quand tu es dedans et que c'est toi, c'est moins évident. Là, au final, j'ai vraiment évolué avec ma jument. Ma jument m'a fait évoluer. La relation, je pense qu'elle se crée et c'est vraiment avec le temps. En fait, après, on en arrive à un stade où c'est au son de ta voiture, elle vient. Et quand tu la vois pour la première fois se coucher près de toi, pas en retrait, pas en défensif ou quoi, vraiment où tu sens que petit à petit, en fait, ça commence vraiment à se créer. Au bout de un an et demi, je sortais autour de mon centre équestre et je la lâchais en liberté. Donc ça veut dire qu'elle avait la totale capacité de pouvoir se barrer très très loin et... Au loin, je l'ai rappelée en me filmant et elle est vraiment revenue devant moi comme dans les films avec la prestance. Et c'est là que je me suis dit oui, en fait, clairement, elle sait qui je suis, je sais qui elle est, on se sait. Bon, ma jument, elle a quand même un caractère. Elle reste quand même son côté un peu nonchalante des fois avec les gens qu'elle connaît pas. Mais c'est un amour. Ma jument, c'est un amour. Et en fait, j'ai décidé de m'exposer sur les réseaux sociaux. Je me dis, ça va montrer aux personnes qui n'aiment pas trop les quartiers, aux personnes qui n'aiment pas trop les personnes en survêt, habillées comme ça, etc. D'une part, qu'ils ne sont pas méchants et qu'il n'y a pas que des scooters et des motocross en bas des bâtiments qui polluent, etc. Il y a aussi ce côté-là naturel, vraiment avec mon cheval, vraiment qui fait sourire les gens qui voient les vidéos, vraiment qui disent ce jeune là, malgré qu'il soit en survêt et en bas des bâtiments, lui au moins voilà, il peut être accepté aussi où il vit avec son cheval, montrer aussi des belles images, etc. Et en deuxième partie, c'est aussi pour montrer aux gens comme moi qui s'habillent dans ce style là, c'est pas parce que les gars vous habillez en Lacoste que vous pouvez pas débarquer dans un centre équestre chill, tranquille, pour pouvoir monter, apprendre, évoluer comme quelqu'un qui s'habille en jean chemise. Moi, franchement, sur les réseaux, beaucoup d'encouragement, beaucoup de positif. Mais au-delà de ça, quand même, surtout au début, vachement de critiques. On me jugeait énormément. C'est sûr qu'il s'occupe mal de son cheval, c'est n'importe quoi, c'est de la maltraitance et tout. Les gens pensent que je prends pas soin de ma jument, que son environnement n'est pas adapté à elle. Au début, ça m'impactait énormément. Et... aussi, je voyais les mauvais commentaires. Ouais, t'es un garçon, tu montes à cheval, t'as pas honte, machin. laisse ça aux filles, t'es pas une fille, pourquoi tu montes à cheval ? Mais en fait, je pense que ça a vraiment aidé certaines personnes à franchir le cap de dire, bon bah oui, c'est vrai, pourquoi lui il le fait, moi je le ferai pas. J'ai eu plusieurs témoignages de garçons qui allaient monter à cheval ou alors qu'ils avaient commencé l'équitation ou alors même qui me remerciaient d'avoir le courage de... Enfin encore, même moi là je dis le courage, mais pour moi en fait c'est juste évident, en fait c'est juste bah j'aime bien, je le fais, c'est tout, voilà.
France Culture, les pieds sur terre.
Je m'appelle Koïta Fama, j'ai 21 ans, je suis française d'origine sénégalaise, j'habite à Lyon et je suis étudiante en master de relations internationales. J'ai grandi à Sète, donc dans le sud. Mes parents, ils font les marchés, ils vendent des sacs en cuir et tout, tout ce qui est maroquinerie. En vrai, ils ont toujours fait ça depuis qu'ils sont arrivés en France. Hein. Ils sont arrivés peut-être en France, ma mère dans les années 2000 et mon père un peu avant. Ils sont analphabètes les deux et ils ont toujours fait ça. Ils se débrouillaient avec ça et voilà. Alors, la première fois que je vois un plateau d'échecs et que j'y joue, c'était quand j'étais au centre aéré. Et turbulente que j'étais, on m'avait punie, comme ça arrivait souvent. Et je pense que ça devait être la fois de trop. Et l'animateur qui me punit, il me met dans le patio comme ça. Il m'amène à un plateau d'échecs et il me dit « Bon bah tiens, t'étudies les règles et tout et je reviens dans une heure et tu dois me battre. » Et moi, je t'en dis « Ah d'accord, ok, moi je peux pas te battre. » Enfin pour moi, je me sentais trop intelligente, trop, j'avais trop la grossette quand j'étais petite, je sais pas pourquoi. Mais je me suis dit, bon, ok, je relève le défi, on va dire. Bonne punition, parce qu'on ne m'a pas entendu, du coup, pendant une heure, peut-être une heure et demie. Il revenait, il me disait, bon, c'est bon, t'as fini. Je disais, non, j'ai pas fini à apprendre et tout. Le truc qui a éveillé ma curiosité, c'est le fait qu'il y avait plein de pièces qui ont différents rôles et qu'il fallait harmoniser tout ça pour manger le roi adverse. Donc, dans ma tête, c'était comme ça. Et bon, en vrai, je ne me suis pas trompée, à part qu'il faut enfermer le roi et pas le manger, mais bon. J'ai perdu très très vite. Hein. Mais après ça, je me dis en vrai les échecs c'est cool, mais pas plus. Là où ça s'est concrétisé, c'est quand je suis rentrée en CM1. Ils ont créé un club d'échecs. Donc je me suis inscrite directement dans ce club d'échecs-là. Il y avait 6 garçons et 2 filles, dont moi. Souvent, on faisait de la théorie et on jouait tous ensemble et voilà. Et après... on fait des compétitions, on gagne des trophées. Je sais qu'on a été souvent sur le podium, en vrai, grâce à Marvin et Tan, surtout, ils étaient vraiment très forts. Et moi, du coup, ça me satisfaisait vraiment. Hein. Je me disais, ah ouais, trop bien, on gagne et tout. Même si je n'étais pas la plus forte dans mon équipe. Mais ce n'était pas une chose où je pouvais me vanter de ça. Enfin, ce n'était pas le truc le plus stylé non plus, en fait. Pour les autres, c'était un truc de garçon, déjà. Donc, qu'est-ce que je foutais là, déjà, pour eux. Et... s'il y avait des médailles, peut-être que je les ramenais pour le montrer au professeur, mais pas mes copines. Ça les intéressait pas. Hein. Parce que il y a les, je pense, les conditions sociales et tout. On m'a toujours dit, ouais, mais les échecs, c'est un loisir de bourgeois ou. Et que. On propose pas aux filles directement, viens jouer aux échecs. Non. Toutes mes copines en primaire, les sports qu'elles faisaient, c'était gym, danse. Voilà. Les échecs, puisque tu dois attendre que l'autre réfléchisse et fasse son coup, bah t'es obligé d'attendre, parce que tu peux pas parler. Là, tu peux pas lui dire, allez, vas-y, joue là, je t'attends. T'es obligé d'attendre, de te concentrer. Il faut comprendre ce que veut jouer l'autre. Genre, ah bah ok, s'il fait ça, alors il faut que je réponde ça. Si je fais ça, bref, je réfléchissais sur son temps. Et donc, en cours, c'est sûr que les profs, ils l'ont remarqué, ça... Parce que du coup, c'est revenu sur les bulletins. En fait, je me souviens de mes bulletins parce que ma mère savait pas lire. Du coup, je devais lui lire ce que les profs disaient. Donc, Ouais, mais ça m'a aidé à me concentrer et tout, et à être plus patiente en fait. Et après, pourquoi j'arrête les échecs? Parce que en fait, quand j'étais en cinquième, donc quand j'avais 12 ans, ils arrêtent le club d'échecs. Et à ce moment-là, j'étais aussi inscrite au club de la ville. Mais il y avait que des vieux. Je m'amusais pas. Donc, je n'avais plus rien à faire, franchement. En plus, mon premier téléphone, je l'ai en quatrième. Donc là, après, enfin, puisque c'est en cinquième que j'ai arrêté les échecs, quatrième, j'avais mon téléphone, c'est fini, hein. On me perdait. Hein. Les échecs, c'était plus mon truc. Après, j'arrive au lycée Paul Valéry. Je joue de temps en temps aux échecs, quand il y a l'occasion. Et j'arrive en droit à Montpellier. Je vois qu'il y a des gens qui jouent aux échecs dans les amphis et tout sur des applications. Et je me dis, ah, mais c'est quelle application ça? Je me crée un compte, mais je joue pas tous les jours. Hein. Je joue vraiment vite fait aux échecs jusqu'à la fin de la L3, du coup. Et après, quand je suis arrivée à Lyon pour le master, bah, je connaissais pas trop de monde, etc. Donc je me suis dit, ok, je vais en club d'échecs, je vais forcément rencontrer du monde. Parce que à la fac, plus les années avancent, moi, je vois de personnes racisées et tu te dis, ah, dingue. Et du coup, tu te retrouves pas forcément dans les mêmes délires que les autres. Et ce sentiment-là d'être imposteur, c'est un peu tous les jours. Quand j'ai des amis, alors là, t'as vu tel film, etc. T'as lu tel livre et tout. Je dis tout le temps non. Genre vraiment, culturellement parlant, vraiment sur plein de choses, je suis vraiment en retard. Et ça me le rappelle vraiment tout le temps. Et surtout là, en master. Hein. En master, j'étais vraiment. Je regrettais même un peu aussi d'être venue à Lyon et en me disant, alors là, j'ai jamais m'intégrer, c'est chiant. Les gens, ils sont tous un peu habillés pareil, toujours la même manière de parler, tous des soirées étudiantes et tout, auxquelles je ne suis pas conviée, etc. Mais avec les échecs, j'ai pu me rapprocher de personnes avec qui je n'avais rien à voir, surtout dans mon master, mais qui eux aussi jouent aux échecs. Parce qu'en fait, il y a des gens à qui j'ai déjà collé une étiquette très précise et je me suis dit, alors eux, je ne pourrais jamais traîner avec eux, etc. Mais avec les échecs, ça déconstruit un peu tous les clichés que je me suis fait d'eux, etc. Et que eux aussi, ils viennent vers moi plus facilement ben, grâce aux échecs, mais que des garçons par contre. Mais cet été-là, je vois sur TikTok, j'ai un nouveau message, une demande de message d'un mec qui me dit laisse les échecs au mec, enfin lâche ça. Et je me dis, mais c'est qui ce mec qui me dit ça? Et moi, je réponds de manière vraiment ironique mais en fait, je te fume quand je veux, en fait. Vraiment, je te bats quand je veux. Et lui, il me répond encore dans son délire et tout, en mode mais qu'est-ce que tu me racontes et tout, dans l'injure et tout. La photo de profil qu'il avait, c'était. Un mec très musclé, mais c'est pas lui. C'est une photo qui est souvent reprise, mâchoire très carrée, etc. Mais c'est pour représenter les mecs mal alpha qui sont plus forts que tout le monde, etc. Et donc, je me dis, ok, bah, s'il veut jouer, on joue. Je dis, bon, ben, sur l'application de chess.com, je dis, c'est quoi ton pseudo? Je vois qu'il a 900 Elo. Donc, un Elo, c'est ce qui permet de te classer par rapport aux autres. Et de déterminer ton niveau. 900 Elo, c'est pas nul comme c'est pas fort. C'est ça va, t'es, on va dire, dans la moyenne.
Et toi, t'as combien à ce
J'ai 1400. Donc, je savais déjà d'avance que je le battais. Alors, dans le chat, parce que quand on fait une partie sur chess.com, on peut parler par message avec la personne en même temps, il m'insulte. Il m'insulte, il me dit ouais, regarde ce que je viens de faire et tout. Je dis mais là, tu sais que t'es en train de perdre. Il me dit non, mais tu dis n'importe quoi et tout. Bref, je le bats. Et après. Par un message TikTok, je lui envoie plein de smileys qui rigolent. Je me moque de lui, quoi. Et là, c'est là où il m'insulte encore plus. Il me dit sale pute, arrête de faire genre et tout, t'es qu'une gauchiste féministe de merde. Il en vient à ma couleur de peau. Il dit oui, je m'en fous d'avoir perdu contre toi et tout, tant que mes potes le voient pas et tout, que j'ai perdu contre une meuf, etc. Et je me dis, mais en vrai, est-ce que j'en ferais pas une vidéo? Et donc, je me mets au montage, je fais une capture d'écran sur ce qu'il m'a envoyé. Sur la partie perdue. Et donc, je fais la vidéo comme ça. Je la poste un lundi soir. Et donc, elle arrive à 1 million de vues. Déjà, la première chose qui m'a surprise, c'est oui, les messages de mecs qui, du coup, avec cette vidéo-là, pensent quand même me battre. et aussi des insultes racistes, racistes, misogynes, même transphobes. Je suis pas une personne transgenre, hein. Et je me dis, mais même dans ça, c'est raciste. Dans les échecs, ça m'avait vraiment étonné que ce soit le cas. Pour moi, c'est un milieu intellectuel. Je vous dis, les gens, ils sont plus intéressés par la partie que par la personne qui joue la partie. Mais non, je ne suis pas un cas isolé. Je suis un peu peut-être plus isolée par rapport au fait que je sois noire et du coup, on me renvoie à un singe ou je ne sais pas quoi. Et ce qui m'a remotivée à me remettre dans les échecs, c'est aussi toujours la mentalité de revanche. Je me dis, je vais leur prouver que je suis plus forte que tout le monde, en fait. Là, j'ai 21 ans. J'ai fait encore des compétitions depuis septembre, là. Je n'ai jamais vu de fille noire en compétition jouer. Mais j'ai vu des hommes noirs, j'ai vu d'autres femmes racisées et tout. Mais noires, non. Après, je vois que sur les réseaux sociaux, il y a des filles qui s'y intéressent, etc. Mais je ne pense pas qu'elles passent le cap de s'inscrire en club et de faire des compétitions, etc. C'est vrai quand je rentre en tournoi, dans les salles et tout, on me regarde un peu du coin de l'œil en mode « Ah, ok, la diversité, c'est bien !» J'ai l'impression que c'est ça, parce que quand on me regarde... Enfin, pourquoi tu me regardes? Après, je pense que les gens, ils le voient comme ça, parce qu'on me le dit pas méchamment. Hein. Il y a des gens qui me disent « Ah, mais t'as pas la tête à faire ça. » Ah, dingue, ok, bah... Je vais faire en sorte que ce soit la tête qu'on puisse voir partout dans les échecs, quoi. Qu'on s'étonne pas qu'il y ait une femme noire qui joue aux échecs en un tournoi et qu'elle soit table 1, enfin... Avec cette vidéo-là et les autres vidéos que j'ai faites depuis, j'ai eu beaucoup de messages de femmes en général, mais aussi des femmes noires, où il y en avait une, je me rappellerai toujours son message, elle a 38 ans, elle m'a fait un long texte en me disant « Merci pour ta vidéo, etc. Franchement, ça va aider beaucoup de filles noires et tout, qui peut-être n'essayent pas trop d'aller plus loin que ça. Elles y jouent peut-être que de leur côté et tout, mais pas en club. » Et elle me disait que si elle avait vu, imaginons cette vidéo-là, quand elle avait peut-être 15 ans, elle serait mise avant aux échecs. Et j'ai reçu d'autres messages d'une fille, elle avait 14 ans. Elle m'envoie un message, je me disais, mais merci pour la vidéo et tout, j'ai commencé les échecs. Et c'est vrai que c'est saoulant parce qu'il n'y a que des mecs et tout, mais franchement, trop bien, je vais faire pareil que toi et tout. Je dis, mais c'est trop mignon, merci. Merci, je dis, mais continue et tout. Donc, moi, le message, et surtout à chaque fin de mes vidéos, surtout dans la première vidéo que j'avais fait qui a pris de l'ampleur, je dis à la fin, je crois, les filles jouent aux échecs, c'est trop bien. La femme de 10 ans, 12 ans qui voit une vidéo d'une meuf noir qui joue aux échecs et qui tabasse un mec comme ça, mais bien sûr que j'aurais continué. Hein. Je me serais dit quoi? Ah, je vais être comme elle. Oh, je vais être trop forte, etc. etc. J'aurais continué au club d'échecs de la ville, etc. Et voilà. The freeway when I need a breeze, ay. Wine in Chinese when I feel uneasy, ay. Fall to my knees, take a line, I needed a boost. Stumble inside of the booth, mumbling none of the truth. As sweat drips down my tits, I contemplate how did ever get like this. I contemplate how did ever get this rich or get this bag. I wonder what them labels see in a bitch this black. I wonder what my friends all think when I'm not there. I love the way my ideas flow when I'm not scared. I love the way my hips roll slow, but I don't like the way it feels when my vices are absent, I'm not there.
C'était La Jument et l'Échiquier, un reportage de Mariem Cissé, réalisé par Eric Lancien. Merci à Fama et à Amir, merci à Valentin Rémy, l'attaché de production des Pieds sur Terre, et à Mina Morel, notre stagiaire. Got that call, but I can't call back. Feeling all alone, and I can't start that. I got shit to prove, no time to fall back. Fall back, fall for who is where you left at? I wonder what's the point, I wonder why I fight. I go to light the joint, I wonder why I light. I feel so ignorant, sick of being friendly only bring bad business. If repetition is the master's practice, then I'm a mathematician when it comes to fashion. Dolce & Gabbana giving trash key tour, your fate is a detour.